La classe de seconde NJPF.
Anaë.
Axel.
Emma.
Timéo.
La condamine en force.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission sur RPH Sud Radio Pays d'Hérault.
Nous sommes les élèves de seconde NJPF du lycée professionnel agricole La Condamine à Pézenas.
Et aujourd'hui, on prend le micro pour vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes.
Prendre soin de notre santé mentale. Cette émission fait partie de notre projet podcast Santé et Développement Durable avec le service Jeunesse de la ville de Pézenas.
En partenariat avec le CISPD de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée.
Installez-vous, on démarre, place aux questions, aux échanges et à la discussion.
Êtes-vous heureux dans la vie? Et pour vous, quelle est la santé mentale?
Alors bonjour, est-ce que je suis heureux dans la vie? Oui, je suis très heureux dans la vie et ma santé mentale va très bien.
D'accord.
Ouais.
Êtes-vous heureux dans la vie? Quelle est pour vous, quelle est la santé mentale?
La santé mentale pour moi, c'est les maladies du cerveau comme l'autisme et la trisomie 21.
Êtes-vous heureux dans la vie? Et vous, quelle est la santé mentale? Qu'est-ce que
moi
la santé mentale?
Moi, je vais bien. Enfin, a priori, je vais bien.
Êtes-vous heureux dans la vie? Et pour vous, quelle est la santé mentale?
J'essaye d'être heureux dans la vie, oui. Et à mon âge, ça devient de plus en plus facile. Alors, la santé mentale, la bonne santé mentale, c'est un accord personnel entre votre corps et votre esprit. Pas le corps des autres, pas l'esprit des autres.
Moi, je suis Fanny Kubels et je travaille sur la maison des ados en tant que chargée de prévention et de promotion de la santé. Donc, j'interviens auprès des groupes en extérieur de jeunes pour les aider à bien aller.
Caroline Pesson, diététicienne et coordinatrice de santé.
Agnès Allard, je travaille à la mairie de Pézenas, je suis animatrice périscolaire. J'accompagne principalement les enfants à la cantine le midi du CP au CM2. Et puis j'interviens aussi sur le temps scolaire, sur les questions de transition écologique, développement durable, toutes les notions de biodiversité, d'alimentation.
Selon vous, quels sont les facteurs familiaux qui peuvent nuire au bien-être mental?
Moi, j'aurais voulu déjà pouvoir vous questionner à vous sur, pour vous, qu'est-ce que c'est que la santé mentale?
C'est le bien-être, c'est comment on sent nous dans la vie de tous les jours, si on se sent bien dans notre corps, oui.
Ouais, c'est un bon début de réponse en effet, mais voilà, de savoir de quel sujet on parle quand on parle de santé mentale. Et en effet, c'est un état de bien-être qui permet à chacun d'appréhender les choses de la vie de façon correcte et de pouvoir être actif aussi au sein de la collectivité. Il y a cette notion de pouvoir contribuer aussi à la société.
À votre avis, qu'est-ce qui peut nuire à la santé mentale?
En fait, la santé mentale dépend vraiment de tout un tas de facteurs. J'aurais tendance à dire, déjà, c'est quelque chose qu'on peut oublier, mais ça dépend de notre environnement. Dans quel pays on vit? Si on est dans un pays qui est en guerre ou un pays qui connaît la famine ou certains droits envers certaines personnes ne sont pas respectés, ça peut déjà être impactant. Donc, il y a plusieurs conditions. Donc, l'environnement. Ensuite, au sein de son foyer, dans quelles conditions on vit? Est-ce que le logement est adapté? Est-ce que déjà on a un logement? Parce qu'une personne qui se retrouve SDF à ce jour, on peut comprendre que ça peut impacter aussi sa santé mentale. Est-ce qu'on est en sécurité dans le lieu dans lequel on vit? Ensuite, il peut y avoir tout un tas de facteurs comme l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, les discriminations ou pas, en fonction de son origine, sa religion. Puis ensuite, on en vient à soi, les questions de personnalité. Il y a effectivement aussi des questions de patrimoine génétique en fonction de maladies mentales qui peuvent être présentes au sein de la famille. Et ensuite, tout ce qui est plus personnel, comme la capacité à faire face à ses émotions, l'estime que l'on a de soi, son estime personnelle, et puis tous les événements marquants de la vie qui peuvent nous arriver, comme des décès, des deuils, des séparations ou des violences. Et pour en finir un peu avec aussi l'hygiène de vie, comment on prend soin de soi et comment on est entouré et on prend soin de nous. Mais voilà, pour se dire, en fait, notre bien-être ne dépend pas forcément que de nous.
Est-ce que vous pensez qu'on parle assez dans notre société de la santé mentale ?
Je pense qu'on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que c'était vachement important. Donc je pense que ça commence à bien se développer et c'est quelque chose d'important, donc il faut en parler, quoi.
Est-ce que vous pensez qu'on parle assez dans notre société de la santé mentale ?
Non, justement, le problème c'est que le parcours d'une personne qui a une maladie mentale est semé d'embûches. Énormément. Il n'y a pas assez de psychiatres, il n'y a pas assez de psychologues, il n'y a pas assez de structures pour les accueillir et les accompagner. C'est vraiment un parcours du combattant.
Est-ce que vous pensez qu'on parle assez dans notre société de la santé mentale ?
On en parle beaucoup trop et ça nous encombre. Le problème, c'est qu'on vient d'une éducation absolument remarquable qui consiste à penser aux autres. Et donc la société, elle est là. Mais moi, hein ? Penser à moi, penser, c'est de l'égoïsme à l'époque. Aujourd'hui, ce ne l'est plus. Mais on est encore teinté avec 3 générations de vieux sur vos épaules de jeunes. Vous êtes encore imprégné de cette idée que penser à soi, c'est de l'égocentrisme, alors que c'est de l'égocentré. Donc évitez de penser aux autres si vous n'avez pas pensé à vous. Centrez-vous à vie personnelle.
Pensez-vous qu'on parle assez de la santé mentale dans notre société aujourd'hui ?
Assez, je ne peux pas vous dire, mais on en parle, contrairement aux années antérieures où on en faisait abstraction. Je crois qu'on en parle beaucoup depuis le Covid, parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y avait 2 charges mentales importantes. C'est celle exercée au niveau du travail, du poste de travail des personnes, parce qu'on a vécu quelque chose de très particulier pendant la période du Covid et de très stressant. Et donc, on a commencé à en parler.
Pouvez-vous expliquer les difficultés que l'on peut rencontrer en s'occupant d'une personne atteinte de troubles de santé mentale ?
Ce qu'on peut dire, c'est que pour les aidants, hein, c'est comme ça qu'on appelle ces personnes-là, il y a déjà la charge émotionnelle par rapport aux difficultés d'un proche, hein. Parfois de l'impuissance, de la méconnaissance de la pathologie, puisque là on va parler plus de pathologie. Ensuite, il y a toutes ces responsabilités administratives, d'aider les personnes dans leur démarche, accompagner sur les examens médicaux, voire en fonction de la pathologie, assurer vraiment une présence au domicile. Et ce qui peut amener à l'isolement de la personne qui aide, puisqu'elle va être, son temps va être beaucoup pris aussi sur ces questions-là. Et ça peut entraîner des ruptures de liens sociaux. Si on prend l'exemple d'un jeune, vous, à vos âges, c'est beaucoup bon. Les devoirs, l'école, mais après tout le cercle d'amis, les relations sociales qu'on peut avoir à l'extérieur du domicile. Et quand un jeune est en charge d'une personne, donc de sa famille, qui aurait des problèmes de santé mentale, il va être beaucoup moins disponible dans sa vie et ça a tendance à le responsabiliser. On parle aussi de le parentaliser et... C'est un peu l'inversion des rôles, puisque normalement, c'est les parents qui vont s'occuper des jeunes et pas l'inverse. Et ça peut entraîner après un certain épuisement, une certaine tristesse, justement, parce qu'on est coupé de beaucoup de choses.
Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Avez-vous une personne de votre entourage ou de votre famille qui a subi des troubles mentaux, du coup, liés à la santé mentale ?
pas dans mon entourage. J'en ai connu au niveau professionnel, qui avait eu des problèmes liés à la charge mentale, liés à justement trop de missions sur le poste de travail, trop de pression. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui démarrent dans la vie, de jeunes cadres qui ne sont pas formés, qui n'ont pas été endurcis à ça. La charge mentale, ça demande à être endurci, à absorber le négatif et à ne pas le garder en soi. Et il faut faire abstraction de ça, quoi, en fait.
Avez-vous une personne que vous connaissez qui est touchée par des soucis de la santé mentale ?
La population du monde entier, de petite manière ou de très grande manière. Tout le monde. Parce que c'est sorti, et c'est une bonne chose, des mains des spécialistes qui, par bonne volonté, par volonté de servir, par volonté d'aider, ont dit que c'était dans les mains des spécialistes de préférence universitaires. Alors qu'aujourd'hui, le grand chaos, c'est que oui, nous avons des jeunes de 15 ans qui viennent du lycée agricole Condamine et qui parlent de la santé mentale. À mon âge, on n'en parlait pas et on tournait la tête. À votre âge, quand j'avais cet âge-là, on tournait la tête et on le mettait de côté. Et bien sûr, tous les fous étaient mis de côté dans des hôpitaux.
Avez-vous une personne que vous connaissez qui est touchée par des soucis de la santé mentale ?
Non, je ne connais personne, ou personne qui me l'a dit en tout cas. Mais je pense que dans mon entourage, il doit certainement y en avoir, mais on reste assez discret là-dessus, donc à ma connaissance, je connais personne.
Avez-vous une personne que vous connaissez qui est touchée par des soucis de la santé mentale ?
Mon compagnon, voilà, qui était bipolaire. On dit porteur de trouble de la bipolarité. À partir du moment où on est porteur, ça veut dire qu'on peut le poser de temps en temps. Et ça nécessite des accompagnements thérapeutiques hospitaliers. Et par exemple, le grand journaliste de France Inter, qui officie sur France Inter de 7h à 11h du matin, il y a 3 mois à peu près, il a fait un coming out sur sa bipolarité. Et c'est quand même un grand journaliste. C'est la tranche horaire qui est la plus écoutée en France. S'agissant de mon compagnon, il a quand même été directeur économique d'une communauté de communes. Donc on peut vivre avec sa bipolarité à partir du moment où on est suivi. Et aussi qu'on accepte à être suivi. Voilà.
Je dois me vider le cœur, je dois remplir le cahier. Me dis plus je t'aime, me dis pas love et yo. Toujours à la grise, mais j'ai quitté la cahier. Y'a un yébi à faire, j'suis relou au rendez-vous. Le miel ou la monnaie, j'finis le jack et le honey. J'ai besoin de nature, de soleil. J'fume le pollen en poney. J'fume le pollen en poney. Combien d'espèces motivées par le cash? 1 million, on est 4. Je demande plus si elle est carte. Et j'ai dit combien d'espèces. Rêve de finir le film. Finir plein de monnaie cash. Comme Paolo et Monégasque. Je les allume et je les mets à l'ombre. Je leur distribue comme un SO. Je t'envoie Martien quand je suis dans le vaisseau. Le chargeur fait la force du nombre. On se fie pas à la fossette ni à la pochette. Je pense que t'es d'accord. Je sais que je suis dans le vrai, mais je fais des erreurs. Je reconnais mes torts. Je peux pas te dire quand ça tire, peux pas lire l'avenir. On n'a pas évité le pire, parce qu'on n'a pas vu venir. Chacun sa vision des choses, même avec des lunettes. Comment tu veux identifier le mal quand tu l'as pas vu naître? Je dois me vider le cœur, je dois remplir le cahier. Me dis plus je t'aime, me dis pas love you. Toujours à la crise, mais j'ai quitté la cahier. Y'a un yébi à faire, j'suis relou au rendez-vous. Le miel ou la monnaie, j'finis le jack et le honey. J'ai besoin de nature, de soleil. J'fume le pollen en poney. J'fume le pollen en poney. Ballon qui vole, c'est pas du volet. Y'a plus personne au bout du fil. Mais j'les ai vus venir du bout de la ville. Ils pensent la jouer fine juste pour un feat.
mais on a appris à marcher sur un veine. Moteur allemand, je suis toujours le même. En italienne, c'est plus les mêmes. Font plus fagère, y'a plus les peines. Triste mélodie, gros c'est nos vies, on fait les fiers. Mais y'a que nos larmes sous la visière. J'peux pas te dire quand ça tire, j'peux pas lire l'avenir. On n'a pas évité le pire, parce qu'on n'a pas vu venir. Chacun sa vision des choses, même avec des lunettes. Comment tu veux identifier le mal quand tu l'as pas vu naître? Je dois me vider le cœur, je dois remplir le cahier. Me dis plus je t'aime, me dis pas love yo. Toujours à la crise, mais j'ai quitté la carrière. Y'a un yébi à faire, je roule au rendez-vous. Mais mieux de la monnaie, je finis le jack et le honey. J'ai besoin de nature, de soleil.
Selon vous, quels sont les facteurs familiaux qui peuvent nuire au bien-être mental?
Alors, c'est vaste sujet, en fait. Les parents sont censés prendre soin de leur enfant, les aider à grandir, à s'émanciper. Et il se peut que dans certaines familles, à un moment donné, traversent des problèmes et qu'ils créent malgré eux un environnement non sécurisant. Et on peut parler des violences ou des conflits intrafamiliaux. Alors, ça peut être des conflits entre les parents, entre eux et avec un enfant spectateur. Et ce n'est pas l'image que normalement on a d'un environnement sécurisant et de parents bienveillants. Et ça peut être également le manque de soutien émotionnel. Lorsqu'un enfant traverse une difficulté, ben les parents, il faut qu'ils soient à l'écoute et qu'ils soient épaulants, aidants. Et parfois, certains pourraient avoir tendance à minimiser aussi ces problèmes, de dire « mais c'est pas grave, mais serre les dents, ça va passer », ou on peut le retrouver dans des cas de harcèlement, des choses comme ça. Et donc, si l'enfant n'est pas reconnu dans sa souffrance et dans ses émotions, voilà, ça peut entraîner des difficultés. Puis, parfois, il peut y avoir aussi des pressions excessives sur la réussite scolaire. Voilà, où les parents vont se projeter sur « je veux que mon enfant soit avocat, docteur » et de ne pas prendre en considération les souhaits et les envies de son enfant. Donc ça, c'est tout un tas de facteurs comme ça sur la relation qui peuvent porter atteinte à la santé mentale des jeunes.
Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques en santé mentale ?
Oui, tout à fait. Il y a des prévalences. Alors après, je ne suis pas médecin, je tiens à le préciser, ni psychologue, ni psychiatre. Hein. Mais effectivement, sur la génétique, il peut y avoir, quand dans son entourage familial, on a des personnes qui souffrent de pathologies mentales, et la dépression, par exemple, en est une, il peut y avoir plus de facteurs qui feront que l'enfant, l'ado, peut subir aussi ces troubles. On peut en parler en bipolarité, en schizophrénie. Voilà, il y a des terrains génétiques, effectivement, qui peuvent faire que.
Comment peut-on aider les personnes dont la santé mentale est fragile?
En fait, la première chose, c'est d'être dans l'écoute active, donc non jugeante, de quelqu'un qui viendrait nous confier ses difficultés. Face à un même problème, on peut être en fonction de justement comment on est fait, est-ce qu'on a développé des habiletés en compétences psychosociales, on peut appréhender les difficultés qui nous arrivent de différentes façons. Et on n'aura pas tous la même façon, effectivement, de ressentir quelque chose en fonction de notre histoire, de notre vécu, notre environnement, voilà, tout ce qui peut composer la santé mentale. Et en premier lieu, je dirais l'écoute. Et effectivement, la maison des ados, mais comme les points d'accueil écoute jeunes, c'est leur vocation première. Et quand on vient poser son sac, poser ses problèmes auprès de quelqu'un qui ne nous jugera pas, c'est déjà se soulager de certains problèmes. Et ensuite, pour quelqu'un qui n'oserait pas aller en discuter, ne pas hésiter à encourager, à demander de l'aide d'un professionnel. Et c'est en ça qu'il y a encore du progrès à faire. Avoir recours à un psychologue ou pourquoi pas un psychiatre, c'est pas être défaillant, c'est pas être faible. Voilà, c'est se saisir de son problème et se dire « ce problème, j'arrive pas à m'en débarrasser seul ». Et donc, je n'hésite pas à les consulter. Et c'est en ça qu'il y a encore des progrès à faire. Et ensuite, voilà, tout l'environnement social de la personne, les copains, la famille, plus ou moins proches, les personnels de la communauté éducative d'un établissement scolaire, sont vraiment là aussi pour aider les jeunes. Et il ne faut pas hésiter à solliciter de l'aide quand on ne s'en sort pas tout seul.
Ouais, je me permets de rebondir là-dessus parce que en tant qu'animatrice à la ville de Pézenas, on reçoit nous aussi des formations pour justement être capable de voir, de détecter les signes d'un enfant jeune déjà qui peut-être qui est tout seul, isolé dans la cour de récréation. Par exemple, à l'école où je travaille, il y a un banc où un enfant il peut aller s'asseoir, c'est le banc arc-en-ciel. S'il est pas bien, s'il est triste, il peut être là. Et voilà, d'autres enfants qui vont le voir, peut-être pourront aller le voir après, ou les animateurs en tout cas l'observent. En tout cas, on a des formations là, pour savoir reconnaître, détecter les signes d'un enfant qui pourrait avoir des problèmes.
Tout à fait, et ça se développe, et ça fait un moment que ça existe, et c'est une formation qui vient à la base de l'Australie. Qui sont les premiers secours en santé mentale. Et comme on a développé les premiers secours physiques, le PSC1, je crois qu'on appelle, voilà, il y a cette formation qui est avant tout citoyenne pour devenir secouriste en santé mentale et qui est ouverte à tous. Et c'est quelque chose, un outil qui est précieux justement pour pouvoir détecter, s'autoriser à intervenir même en temps de crise, se dire qu'un schizophrène ou enfin, voilà, sur des pathologies lourdes, ce ne sont pas forcément des gens dangereux. Et ce qui permet de démystifier un peu tous ces troubles de santé mentale, s'autoriser à intervenir et surtout à orienter. Voilà, c'est une formation qui est précieuse.
Oui, bonjour, David Gentilin, responsable du service jeunesse et prévention à la ville de Pézenas. Justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Fanny, il existe un groupe de travail santé mentale qui a été mis en place par la communauté d'agglomération et Héro-Méditerranée dans le cadre du CSPD. Et donc, avec la ville de Pézenas, il va y avoir des formations de premiers soins en santé mentale qui vont être mises en place pour les agents de la collectivité, mais également qui va aller au-delà des agents de la collectivité et qui va être proposé aux autres professionnels de la communauté pisciennoise et même de l'agglo. Donc on en saura un peu plus en début d'année 2026. Voilà.
Pour vous, quelle est la cause principale de problèmes de santé mentale ?
Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Je pense que déjà, c'est peut-être lié à l'enfance aussi, s'il y a eu des problèmes dans l'enfance et tout. Je pense aussi peut-être un surmenage au boulot ou peut-être des événements dans la vie qui ont fait que les gens, ils ont été touchés par ça, quoi. Et ça, voilà.
Il y a beaucoup de causes. Ça peut être comme la bipolarité, par exemple. Il y a un facteur génétique. La génétique est dormante là-dedans, mais il suffit par exemple d'un problème émotionnel ou de la drogue ou les trucs comme ça pour les déclencher.
Pour vous, quelle est la cause principale de problèmes de santé mentale ?
L'absence d'espace personnel pour chaque personne, où la personne peut se décontracter, se détendre, se déposséder de la société, d'avoir un endroit à soi, que ça soit à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec une porte qui n'existe pas, mais en sachant qu'il y a une porte de sortie pour les autres. Parce que sinon, on n'a plus d'endroit à soi, et ni le temps à soi. Prenez du temps pour vous. Et je vous recommande les grands paysages du Languedoc. Hein. Ça, c'est ma joie aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez que demander de l'aide psychologique est bien vu aujourd'hui?
Ouais, je pense que c'est bien vu. C'est encore, je pense que certaines personnes doivent avoir honte de demander de l'aide, mais je pense pas qu'il faut avoir honte. Dès qu'on va pas bien, il faut parler. Soit à quelqu'un qui s'occupe de ça, ou même à la famille, ou tout. C'est important de parler. C'est le début de la guérison, je pense, de parler.
Est-ce que vous pensez que demander de l'aide psychologique est bien vu aujourd'hui?
Ça dépend pour quelles raisons. Si c'est pour raisons familiales, oui, mais si pour d'autres raisons, non.
Est-ce que vous pensez que dans notre société d'aujourd'hui, c'est bien vu de demander de l'aide psychologiquement à un psychologue ou autre?
Ça a toujours existé. Mmh. Effectivement, c'était conçu comme quelque chose de négatif auparavant. Il ne fallait pas aller voir un psy, sinon on était catégorisé, stigmatisé. Et pourtant, n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à aller voir un psy. Maintenant, ça se démocratise, on va dire, hein, puisqu'il y a de la publicité là-dessus. Voilà. Mais ça a toujours existé, hein, les psys, c'est pas nouveau, quoi. Mmh.
Est-ce que selon vous, la santé mentale, elle est importante pour le travail ou pas?
Je peux répondre à votre question par un exemple. On vit dans une société où des fois notre environnement professionnel évolue. Donc on se retrouve compétent durant une période de notre vie professionnelle. Et puis l'environnement évolue via par exemple une nouvelle technologie. Et on peut se retrouver déstabilisé. Et du coup, vu que cet environnement évolue, ne plus se retrouver compétent dans ce domaine, alors que toute sa vie, on a été compétent et spécialiste. On est toujours spécialiste, mais le fait que l'environnement ait évolué avec des techniques qui évoluent, alors je le vois, on l'a vu surtout lors de l'arrivée des nouvelles technologies, certaines personnes qui étaient hyper compétentes se sont retrouvées complètement déstabilisées parce que, on va citer l'exemple de la machine à écrire, bon, c'est un peu vieux quand même, mais l'arrivée de l'ordinateur, en fait, certaines compétences de secrétaire, en termes de santé mentale, ça a été dur pour eux. Donc il a fallu s'adapter, donc se former, donc sortir de sa zone de confort. Et je pourrais maintenant donner plus un exemple récent, c'est-à-dire l'arrivée de l'IA. L'arrivée de l'IA sur certains métiers, beaucoup de personnes se posent des questions quant à leur avenir professionnel. Parce que l'IA est en train de révolutionner certaines pratiques qui vont être quasiment automatisées. Donc sur de l'opérationnel, un travail opérationnel, l'IA en fait va le remplacer ce travail. Mais je dirais qu'en fait, il faut savoir ensuite s'adapter, évoluer avec, dans l'air du temps. Et c'est vrai que pour ceux qui n'arrivent pas à s'adapter, c'est compliqué. Donc là, ça nécessite beaucoup d'accompagnement. Donc en termes de technique managériale, déjà, c'est au manager, les encadrants, de se remettre en question et de surtout pas faire culpabiliser ces personnes-là. Et là, c'est beaucoup d'un travail d'accompagnement et de laisser du temps à ces personnes pour se former et redevenir compétentes dans ce domaine-là. Voilà.
Tout à fait. Si je peux compléter, l'être humain, il est tel que on n'a pas de frontière étanche entre les problèmes qu'on peut aussi avoir à son domicile, dans sa sphère privée. Et le travail, et qu'effectivement, si on a mal dormi, si on a des difficultés, on est en pleine séparation ou quoi, quand on arrive au travail, on est peut-être moins enclin aussi à bien travailler. Enfin voilà, on ne laisse pas nos problèmes sur le seuil de la porte. Et effectivement, après, il y a toute cette histoire de management, et on peut dire que certaines formations de managers n'étaient pas très heureuses sur la considération de l'être humain. Et ensuite, quel impact ça peut avoir par rapport au travail? Effectivement, si on va travailler avec envie, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on s'y épanouit, ben on sera beaucoup plus productif. On ne regardera pas forcément les heures, hein, et voilà, on sera effectivement plus performant. Alors que, et ça peut entraîner voilà, plus de présence, plus de joie de vivre au travail, et c'est important. Alors qu'effectivement, si on se retrouve à trop à crouler sous les problèmes, et alors n'en parlons pas, si les problèmes sont créés par le travail, ben, ça va entraîner plus d'absentéisme, des démissions, et c'est ce que... Et là, ça peut effectivement aller jusqu'au suicide. Et on a tous en tête les problèmes qu'il y avait eu chez Orange notamment, mais pas que. Voilà. Donc, c'est un tout, la santé mentale. C'est aller bien, mais et c'est plein de facteurs comme le travail, effectivement, qui a son importance.
Maintenant, dans les entreprises et dans les collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les régions, les départements, dans les établissements publics, il existe des commissions paritaires donc, qui sont constituées, on va dire, groupe direction et groupe agent. Et donc, ils sont là pour travailler sur les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail. Et donc, du coup, santé, on est santé physique et santé mentale. Donc voilà, de ce côté-là, on ne peut pas dire que, qu'au niveau de l'environnement territorial, il n'y a rien qui existe. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se créent, qui se font. Et voilà, c'est assez rassurant.
Voilà. Oui, tout à fait. De bien garder en tête que c'est de la responsabilité d'un employeur, quel qu'il soit dans le public ou dans le privé, de travailler autour des risques psychosociaux et de s'assurer effectivement du bien-être du salarié.
Pour vous, quel est le rapport entre les émotions et la santé mentale ?
C'est lié, c'est-à-dire que une personne fragile émotionnellement ou sensible ben, aura sa santé mentale peut-être plus affectée qu'une autre. Et tout ça, ben, ça fait partie d'un nouvel apprentissage en fait. Il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut apprendre à s'endurcir, à mettre de côté l'affect, suivant le métier qu'on pratique. Une infirmière, elle ne ramène pas ses problèmes à la maison et pourtant elle en voit toute la journée. Donc il y a des méthodes pour apprendre à se protéger, se préserver. Mais il y a aussi, dans le domaine collectif du travail, il y a des attitudes à avoir, comme vous pourriez les avoir vous dans une classe. C'est-à-dire que vous formez un tout. Dans la classe, il y a des gens forts, il y a des gens fragiles, et les uns doivent soutenir les autres. Il faut raisonner en groupe et plus en individuel. Et c'est comme ça que vous arriverez à compenser et à avoir tous la même santé mentale préservée.
Pour vous, quel est le rapport entre les émotions et la santé mentale ?
Il n'y a pas de relation de cause à effet. Il n'y en a pas. Les émotions, ce sont des émotions naturelles. Quand on a envie de pleurer, on pleure. Quand on est en colère, on crie ou on pleure. Ça n'a rien à voir avec la santé mentale. Rien à voir. Voilà, la santé mentale, ça peut être biologique. Ça peut être des manques de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine, des trucs comme ça. Parce que notre corps ne sécrète pas assez ce genre d'hormones qui améliorent la qualité de vie. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'aide.
Selon vous, comment améliorer une mauvaise santé mentale ?
Donc selon moi, ça va déjà être d'en parler. De le dire, comme vous l'avez dit précédemment, de ne pas rester seul avec son problème et de s'adresser à quelqu'un, peu importe dans un premier temps s'il est compétent ou pas, mais de le dire, de ne pas rester seul avec ça. Et ensuite, bon, je vais laisser la parole, mais d'aller vers des gens qui sont formés et qui sont en capacité de nous écouter, de recevoir notre parole et de nous aider à y voir un peu plus clair et puis à prévoir quelque chose pour essayer d'améliorer santé petit à petit, mais je laisse la parole.
Il y a plusieurs facteurs et effectivement, déjà commencer par en parler et aussi se questionner soi-même sur quelle est l'origine de mon mal-être, pourquoi je ne vais pas bien. Et en ça, on peut après aussi voir ce qui est de sa responsabilité personnelle, ce que j'appellerais ce qui relève de l'hygiène de vie, et se dire si je ne dors pas bien, si voilà, je ne règle pas mes problèmes, si de devenir acteur aussi soi-même de son bien-être. Voilà, savoir que par exemple, le manque de sommeil chez les jeunes et les adultes, le manque de sommeil par exemple, peut faire en sorte que la moindre difficulté nous impacte plus que si on était en pleine forme. Et donc, voilà, aller prendre l'air, se mettre au soleil, aller marcher dans la nature, ce sont aussi des actes de la vie quotidienne qui sont importants. Et donc, pouvoir analyser ça. D'où vient mon problème et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre moi aussi pour essayer d'aller mieux.
Pensez-vous que tout le monde devrait bénéficier d'un suivi psychologique à intervalles réguliers, comme tous les 10 ans ?
Mais en fait, l'idée d'avoir un bilan régulier qu'on peut faire soi-même ou auprès d'un professionnel est intéressante pour prévenir les difficultés et pas attendre qu'elles soient là. Mais pour moi, ça doit être vraiment sur la libre adhésion. Il faut avoir envie d'aller voir quelqu'un pour s'interroger à un moment donné sur comment on va. Et surtout pas d'obligation ou de contrainte. Voilà, c'est toujours une démarche personnelle que d'aller voir quelqu'un et se confier sur potentiellement un mal-être. Ou s'interroger sur sa vie, quoi.
Donc, concernant une collectivité territoriale, il y a des visites médicales chaque année. En général, elles sont tenues par un infirmier ou une infirmière. Et on ne va pas parler que de nos problèmes physiques, mais c'est également de ce qui se passe au travail. Est-ce que notre environnement est sécurisant ? Est-ce que la charge émotionnelle lors de notre travail a un impact sur notre vie privée ? Donc, c'est des discussions, on va dire, informelles que l'on a avec une personne. Et donc, on est sur des discussions quand même qui sont confidentielles. L'employeur ne sera pas au courant des informations qui auront été données à cette infirmière. Et en fonction, on peut avoir des rendez-vous avec avec un médecin, ensuite avec des psychologues. Après, régulièrement, au sein d'une entreprise, ben, y a des réunions ensuite avec son responsable, son chef de service ou son chef d'atelier. Et ben là, en fait, il faut en discuter. Il faut discuter un petit peu de ce qui se passe sur son lieu de travail et des problèmes que l'on peut rencontrer. Parce que souvent, que ce soit un responsable d'atelier ou un chef de service, il n'est pas constamment sur le lieu de travail. Donc, il peut passer à côté de certaines problématiques, contraintes que vous pouvez avoir, vous, sur votre lieu de travail. Je pense que vous allez être prédestiné à travailler sur, en tant que paysagiste. Le chef d'entreprise ne sera pas constamment avec vous. Et des fois, selon les lieux, ben, vous pourrez lui dire ben là, il y a des contraintes matérielles qui ensuite peuvent vous faire peur. Parce que si vous montez dans les arbres, selon les conditions de travail, selon l'environnement, ben, c'est bien d'en discuter pour dire voilà. L'environnement n'est pas sécurisant ou ça peut m'impacter psychologiquement et je peux me sentir mal dans mon travail au bout d'un moment. Et donc là, il faut tout le temps en discuter en fait, avec ses collègues, avec son chef d'équipe ou sa chef d'équipe. Et c'est ça la base en fait, c'est de discuter, d'en parler. Parce que souvent ça part de là, c'est un manque de communication. Hein. On ne communique pas, on pense qu'ils croient savoir qu'on vit ce problème-là, sauf que peut-être que lui, il ne sait pas que vous vivez ce problème-là, donc il faut discuter, il faut en parler.
Selon vous, comment sortir quelqu'un d'une mauvaise santé mentale ? Quelles sont les solutions ?
Ne pas rester seul avec ses problèmes, je pense que ça c'est le plus important, et ensuite identifier quelle est la source des difficultés. Et ça, c'est un travail que l'on peut faire soi-même, hein, de se dire « mais pourquoi je ne vais pas bien ? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Pourquoi je suis affectée sur une certaine chose ?» Et c'est en ça que les psychologues aussi peuvent nous aider et nous accompagner pour mieux identifier justement les difficultés que l'on rencontre et comment y remédier. Donc tout dépend de la difficulté que l'on rencontre.
C'est tout pour moi, merci beaucoup pour cette interview.
Je vous remercie pour votre sévérité de jeune. Continuez, mais surtout apprenez à rire et à vous aimer. Hein, et surtout à prendre des moments pour vous. Parce que les copains, c'est formidable. Mais ce n'est pas tout. Soyez amis avec vous-même, bienveillants. Hein, ne salopez pas votre vie. Ça vaut absolument pas la peine.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était la seconde NJPF du lycée La Condamine à Pézenas, au micro de RPH Sud Radio Pays d'Hérault. Cette émission a été réalisée dans le cadre de notre projet podcast Santé et Développement Durable avec le service jeunesse de la ville de Pézenas. En partenariat avec le CISPD de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée. Un grand merci à nos invités pour leur disponibilité et aux intervenants qui nous accompagnent dans ce projet.
Et merci beaucoup à vous aussi.
Merci à vous.
De rien. Merci. Au
la classe de seconde NJPF.
Anaë.
Axel.
Emma.
Timéo.
La Condamine en force.